Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up. Vous écoutez le podcast qui analyse et commente les shows de la WWE. On est en janvier 2019 et on n'a pas changé notre recette. Grande semaine pour nous et pour tous les fans de catch. Pardon, c'était le Royal Rumble ce dimanche et évidemment il va y avoir des conséquences pour la suite. Nous allons donc présenter le Raw de ce lundi 28 janvier qui avait lieu, comme tous les programmes de la semaine, à Phoenix dans l'Arizona. Je suis Raphaël et j'ai une petite surprise pour vous. Vous m'aurez sûrement reconnu, mais allez-vous reconnaître mon partenaire qui nous revient pour la première fois de l'année? C'est le luchador masqué. Voici Crix.
Eh oui, voici Crix qui a un peu turné en fait ces derniers mois. Salut le peuple de Catch Up, salut Raphaël. Eh ben, bien content d'être de retour parmi vous pour reviewer ce Raw. Voilà, donc je suis là, je suis chaud. Ouais. C'est quand vous voulez.
Eh ben, c'est parti. Bonne année à toi. Et puis,
Année, ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais on peut encore se la souhaiter.
Ouais. Et puis, écoute, on souhaite que ça soit le premier d'une longue série de podcasts. A priori, tu as l'air assez enthousiaste. Donc, on va démarrer de suite. Tu as bien aimé, toi, ce Royal Rumble déjà?
Ouais, globalement, le pay-per-view m'a bien plu, ouais. Ouais. Franchement, voilà, il y a 2-3 réserves à droite, à gauche. Je me le suis fadé en entier avec le pré-show et tout, quoi.
Ah, oui.
Bon, j'ai pas regardé le panel dans le pré-show, hein, mais j'ai regardé les matchs, quoi. Bon, donc le match tag team de début, vraiment sans plus, mais après, l'US, ça allait. Un très bon cruiserweight. Et après, le reste, je vais pas refaire un Rumble en entier. Hein. Donc, le Rumble dans l'ensemble, le pay-per-view m'a bien plu. J'étais bien enthousiaste. Et seul bémol, ça aurait été le match Edge Styles-Bryan. Je pense était mal placé dans la carte. Et du coup, le public était mort. Le public avait tellement joui quelques minutes auparavant pour une raison bien qui s'appelait Becky, Becky. Et je crois que pour Styles et Bryan, ça a été super dur de passer après ça, quoi.
Ouais. Bon, ouais, c'est vrai que vu la carte, de toute façon, il y en a forcément un match qui aurait été mal placé.
Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être qu'en fait le match Styles-Bryan, il aurait fallu le faire après le Asuka Becky, par exemple. Je sais pas.
C'est vrai que moi, on fait deux minutes sur Rumble. Moi, je pense que tant qu'on était chaud, ils auraient dû enchaîner en fait les deux Rumble. C'était le seul moyen de garder la foule un peu éveillée, peut-être. De suite le Rumble masculin après le féminin.
Ouais, pourquoi pas en fait faire un co-main event, quoi. Ils auraient terminé le show par les deux Rumble. Voilà, ça aurait été pas mal, ouais, aussi ça.
Bon, écoute, on ne refera pas le passé en tout cas. Pour ce Monday Night Raw, on attaque évidemment par la star de la soirée de la veille.
Voilà.
Du côté de Raw, on a le gagnant du Royal Rumble masculin. Alors, il était bon, très prévisible, c'est toujours facile à dire après coup. Il était très attendu en tout cas. Seth Rollins a gagné son premier Royal Rumble. Et il arrive tout fier avec les ovations de la foule. Hein. Évidemment, ça a burn it down à fond dans Phoenix. Seth, il s'offre un petit moment de gloire. Hein. Il savait pas trop s'il allait oser le faire, mais il va nous montrer du doigt. Il va nous pointer le logo de WrestleMania comme tout le monde fait depuis des années. Il ne déroge pas à la tradition. Très vite. Et rejoint par Triple H
ouais.
qui a été son mentor, puis son rival et qui vient quand même dans un moment assez émouvant. Hein. Triple H, il a l'air vraiment d'être très touché. Il dit que il a été fier d'avoir vu ce Seth Rollins là, de l'avoir un peu réveillé et puis de l'avoir mené jusqu'à cette route pour WrestleMania. Alors, il lui donne quand même une petite condition. Hein, il lui dit, tu auras le choix pour le titre que tu veux choisir, hein, soit celui de Daniel Bryan, soit celui de Brock Lesnar. Mais mon coco, il faut que tu te décides d'ici ce soir. Bon, petite contrainte.
Ouais. Un petit coup de pression quand même, quoi.
Un petit coup de pression, ouais, bon, pourquoi pas.
C'était juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à Triple H, c'était un peu... Et l'adoubement du grand patron à Seth Rollins. Ça fait plusieurs semaines qu'il lui dit « Il faut que tu y ailles, il faut que je revoie le Seth freaking Rollins, le vrai, le dur, le pur. » Voilà, et là, il monte sur le ring quand même le lendemain de la victoire du Royal Rumble. Et pour moi, il adoube Seth Rollins, quoi. Clairement, quand même, ce qu'il lui dit, c'est quand même c'est fort, quoi. On sent que les deux mecs sont au taquet, quoi. Donc j'ai trouvé excellent ce segment en fait.
Ouais,
donc euh,
C'était une belle, enfin, c'était vraiment une frontière entre l'écrit et le réel, quoi. On avait vraiment.
Ouais, complètement, ouais, c'est ça, t'as raison, en fait. C'est ça, c'est que là, tu vois, c'est les moments dans le catch où il y a le vrai et le faux qui se mélangent un peu, parce que tu vois dans les yeux de Rollins qu'il est purement ému, quoi. Il a le patron, quoi, de la Big League qui est là devant lui, qui est en train de lui dire, mon gars, voilà, quoi, ça y est, t'as décroché la lune, ça y est, voilà. T'es à WrestleMania, je t'avais dit, fallait que tu te donnais pas assez pour moi, et là, ça y est, tu nous as prouvé, là, voilà. Ça y est, c'est parti, Seth, quoi.
Ouais, mais alors, ça nous a émus tous les deux, mais il y en a un que ça n'a pas du tout ému tout ça. Il y en a un qui arrive de suite, et cette personne, c'est Dean Ambrose. Dean Ambrose qui, lui, contrairement à nous, ne croit pas du tout en la sincérité de Triple H. Hein. Il rappelle à Seth Rollins, écoute, mec, quand nous deux, on était en équipe ensemble et qu'on était en train de révolutionner un peu le monde, lui, le vieux, là, c'était lui qui a voulu nous arrêter, c'est lui qui a tout fait pour nous détruire, pour nous séparer. Hein, c'est lui le traître, en gros, c'est lui
Clairement.
qui est la cause de nos malheurs. Bon, bah, Triple H, il est un peu piqué au vif, hein, il lui dit que le traître ici, c'est quand même Dean Ambrose. On revient un peu sur l'histoire de la trahison le soir de l'annonce de la leucémie de Roman Reigns. Donc, on est dans des propos assez violents de part et d'autre. Et Dean Ambrose, il demande rien de moins qu'un match là de suite contre Seth Rollins. Bizarrement, Triple H, qui est toujours assez efficace d'habitude pour booker des matchs, il a pas l'air d'accord, il s'en va. Et Dean Ambrose lui lance une dernière provocation en lui disant, ah ben, t'as besoin d'aller demander la permission à beau papa avant.
Ouais.
Mmh.
Father-in-law, voilà. Et bah, ça, c'était marrant, en fait. Pareil, j'ai trouvé que c'était. J'ai bien aimé la tête de Triple H, en fait, sur comment il l'intercepte, tu sais, entre les cordes, là. Je trouvais ça pas mal, quoi. Mais bon, Ambrose, on va en reparler, là. Mais parce qu'Ambrose, là, il y a des choses à dire, quoi.
Ouais. Et donc finalement, nous avons un match hein, d'entrée de jeu. Donc Seth Rollins qui est catché, peut-être pas une heure, mais un bon moment la veille. Il se retrouve ce coup-ci dans un 1 contre 1. Bon, alors est-ce que c'était la fatigue de la veille ou est-ce que c'est le fait que Dean Ambrose et Seth Rollins ne font que des mauvais matchs depuis le début de leur feud, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose dans ce match. Un match assez pourri, enfin, on va voir si tu partages mon avis, qui se termine par
Ouais.
un simple tombé très clean suite à un curb stomp. Un curb stomp qui est peut-être le meilleur moment de la rencontre parce que Dean Ambrose le vend super bien. Et ça fait très spectaculaire, mais à part ça, voilà, 1, 2, 3, Seth Rollins gagne, Dean Ambrose perd. Bon, alors
Ouais.
j'enchaîne de suite, hein, parce qu'il perd et il n'est pas content, il reste sur le ring, il s'assoit sur une chaise, il prend le micro, il veut nous dire a priori quelque chose, enfin, voilà, il en a gros sur la patate à force de prendre des branlées, hein, Dean Ambrose, on peut le comprendre.
Il dit au public, voilà, taisez-vous, j'ai arrêté de faire les cons, en fait, il en dit même. Il en dit, arrêtez de faire les cons, don't be a jerk. Et j'ai quelque chose de sérieux à vous dire.
Ouais, donc une révélation semble proche,
Voilà.
mais il est coupé par Nia Jax qui
Et ouais,
décidément
décidément.
elle se sent plus. Donc Nia Jax vient le confronter hein, face contre face, et puis finalement Dean Ambrose part. Tout simplement, on va finir ce segment là-dessus. Bon, Nia Jax, elle est arrivée parce qu'elle avait un match en fait, mais on va laisser ça un peu de côté. Ouais.
Je te coupe, mais Dean Ambrose, il sort pas du ring comme ça, hein. La force irrésistible, elle lui met un coup de coude dans la gueule quand même, quoi.
Oui, c'est vrai, exact. Oui,
Et tu vois, il y a quand même, en plus, c'est une interaction physique, quoi. Donc, elle lui met un coup de coude dans la gueule et le Ambrose, bah, il moufte pas, quoi, et il quitte le ring.
Donc,
Voilà.
très très mauvaise soirée pour Dean Ambrose.
On en parle d'Ambrose un peu là.
Oui, vas-y. Bah ouais,
Écoute, c'est malheureux, hein, mais je crois qu'Ambrose, il est en train de vivre un enterrement première catégorie. Là, en une semaine, enfin même en une semaine, on peut dire un peu plus là, mais bon, en fait, il fait que perdre. Là, il perd dans un single match que tu as très bien dit, qui a été un match très médiocre, quoi, contre Seth Rollins. Donc, la veille au Rumble, il se fait sortir en 2-3 minutes. Il repère le lendemain à Raw face à Seth Rollins dans un match hyper médiocre. Et derrière, il se prend un coup de coude dans la gueule de Nia Jax et il disparaît de Raw, quoi. Et le soir même, partout dans toute la presse internet, il est annoncé que. Alors bon, moi je pense plutôt pour le work, mais comme par hasard, on nous fait traîner tout un tas de bullshit pour nous dire que Ambrose va quitter la WWE, etc., quoi. qu'il aurait quitté Total Diva aussi apparemment. Et en fait, on a l'impression, enfin moi je le sens comme ça là, déjà ça faisait 2-3 roues que je me faisais la réflexion, mais plus ça va, plus il descend dans la carte, et n'empêche que il existe de moins en moins, quoi.
Alors donc pour être précis, hein, les dirt sheets, les rumeurs disent que donc c'est pas qu'il est parti maintenant, mais effectivement que à la fin de son contrat, qui est juste après WrestleMania, il signerait pas, enfin il s'en va, quoi. Il fait peut-être un dernier match à WrestleMania. Alors c'est vrai que tu as raison, hein, quand on le regarde ces dernières semaines, ça dépoche sévère.
Ah ouais.
Après. Ça peut tout à fait être un work, et on pourrait presque imaginer un affrontement contre Triple H, par exemple, pour WrestleMania, qui serait en train de se construire, une sorte de personnage de plus en plus aigri, de plus en plus rancunier, de plus en plus qui s'enferme vraiment dans la nocivité et tout. Après, bon, je sais pas ce que t'en penses, mais il est quand même revenu en fanfare à SummerSlam dernier, on lui a donné un gros heel turn. Est-ce qu'il n'a pas un peu déçu Dean Ambrose ? Est-ce qu'il mérite pas un peu ce qui lui arrive ?
Ah ouais, ouais. En plus, si tu veux, y a même le segment de cette semaine-là, Arrow, il collait pas parce que Nia Jax, elle lui met un coup de coude. Dean Ambrose, c'est le personnage du Lunatic Fringe, quoi. Donc finalement, personne, vu que Nia Jax, la veille, elle avait pris un 6-9 et un ça n'aurait pas tellement choqué si Dean Ambrose, il était remonté sur le ring et qu'il lui avait collé un DDT, tu vois, quoi. Ça aurait été dans l'esprit du personnage, quoi. Mais lundi soir, il fait rien, quoi. Elle lui met le coup de coude, il se retourne et il sort, et puis en fait, bah, il se passe rien, on passe direct à la suite, quoi. Je suis assez surpris, en fait, tu vois, du traitement du personnage, là. Mais bon, écoute, si c'est un work, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, hein, mais s'il est proche de la sortie, bah, au final, je pense qu'on sera finalement pas beaucoup à être étonné, quoi.
Et ni à peut-être le regretter, ça, je ne sais pas.
Moi j'aimais plutôt bien, hein. Moi j'aime plutôt bien le Dean Ambrose là, mais je t'avoue que le Dean Ambrose man, c'est pas ça.
Non, là c'est difficile depuis son retour, hein. Même son heel turn qui aurait peut-être dû le libérer, on aurait pu espérer, quoi. C'est Dean Ambrose, ça.
Ouais. Et pour moi, il a un petit côté, Stone Cold, quoi, qui est pas exploité à mon avis, quoi. Mais dans le ring, il est quand même moyen souvent, quoi. Il faut être quand même honnête. Même du temps du Shield, hein, il était quand même, c'était des trois, c'était quand même pour moi le plus moyen dans le ring, quoi. Et il est resté le plus moyen. C'était construire un personnage, quoi. Ouais. Je sais pas où ils vont aller avec lui, là. Tu vois, là, en tout cas, pour moi, c'est, tu vois, dès la fin du segment avec Nia Jax, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et à ce moment-là, tu vois, j'avais pas encore entendu toutes les bullshit d'infos internet et tout ça, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà où ça en est avec le Mister Ambrose.
Écoute, on verra effectivement la semaine prochaine si on en a un petit peu plus à ce sujet. En tous les cas, on n'a pas fini notre Raw, évidemment, puisque bon,
c'était notre point Ambrose, quoi, voilà, quoi.
Nia Jax était donc au milieu du ring, elle n'était pas toute seule, elle est là avec Tamina, puisque donc nous sommes tous au courant maintenant, il va y avoir de superbes nouvelles ceintures du championnat tag team féminin qui vont être décernées lors du prochain pay-per-view Elimination Chamber.
Ouais.
Du coup, il y a six places, hein. Si la WWE trouve qu'il y a au moins 12 équipes féminines à la WWE, elle décide de nous faire en plus des matchs de qualification. Donc Nia Jax et Tamina doivent affronter ce soir Alexa Bliss, qui est là aussi en fin de retour, et Mickie James. Alors le match est assez rapide et on y voit notamment une grosse domination de Nia Jax, qui est décidément repartie pour être une force irrésistible après avoir un petit coup de mou. Elle va quand même porter Mickie James et Alexa Bliss en même temps sur ses épaules pour leur porter un double Samoan Drop. Et c'est ça qui va entraîner la victoire. Donc Nia Jax et Tamina sont partis pour être dans la cage. Alexa Bliss n'a que ses beaux yeux pour pleurer. Bon, est-ce que t'as apprécié ce court match ? Est-ce que Nia Jax est enfin bien placé ?
Le match, il était relativement moyen, quoi. On peut pas dire que c'était un match extraordinaire. Enfin, moi, j'attendais la victoire des deux powerhouse, quoi, franchement. Donc, pas trop de surprises. Bliss, je crois qu'elle n'est pas très très bien physiquement ces dernières semaines. Donc, du coup, je crois que voilà, elle est. Et puis, elle sera plus exploitée en individuel que par équipe. Je crois qu'ils n'en ont pas grand-chose à foutre d'avoir Alexa Bliss dans la Tag Team Division, quoi.
Ah oui.
Elle, tu vois, elle a son Moment of Bliss, elle a son talk show maintenant. Je pense que c'est en individuel qu'ils la veulent, Alexa Bliss, quoi. Pas dans le Tag Team, quoi. Donc pour le coup, si tu veux, j'étais très satisfait de la victoire des deux powerhouse. Nia Jax, bah on va dire qu'elle est au taquet hein, depuis dimanche. Nia Jax, voilà, elle est rentrée, elle était dans le rumble, elle a fait une bonne perf quand même dans le rumble féminin. Elle est rentrée dans le rumble masculin. Là, elle se qualifie pour l'Elimination Chamber. Enfin, j'ai envie de dire que bah ça va pour Nia, quoi. Juste petit bémol, Tamina dans le ring, c'est juste pas possible, quoi. Tamina, elle a été assez catastrophique au Rumble et pourtant son passage a été court et elle a encore été assez catastrophique hier soir, quoi. Vraiment dans le ring, vraiment ça va pas Tamina, quoi. Ça va pas du tout, quoi. Ouais. Mais bon, on va dire que pour moi c'est un résultat logique et que ça va être franchement intéressant de voir ce duo-là dans l'Elimination Chamber.
Ouais, ça va être comme tu dis les powerhouse, donc forcément il va y avoir la force en présence. Alors après bon oui Tamina. Tamina, ça sent la retraite, hein, mais, ouais. Mais ouais. Nia Jax, écoute, pour moi, c'est la première fois que Nia Jax devient vraiment un personnage que je trouve intéressant, sans que ça soit trop surjoué. Elle a été très bonne dans le Rumble masculin, ouais, j'ai adoré, et là, elle s'en sort pas mal. Juste un peu perdu sur les alignements, moi j'ai été là sur ce match, j'avais plus... Du coup, c'est Alexa Bliss et Mickie James qui étaient a priori dans le rôle des faces. Bon mais comme tu as dit, c'était vraiment très ponctuel comme alliance, ouais, ouais. Je pense.
Ouais, je pense que vraiment Bliss, elle est vraiment pas destinée sur la tag team. Franchement, je pense qu'elle est pas dans cette équation. Elle a un rôle, à mon avis, elle a un rôle super important dans la Women Division. Je pense que c'est une nana en qui les officiels, ils ont super confiance. Mais cette nana-là, elle est prévue pour de l'individuel. Là, tu vois, je pense que sa carrière, elle, ça va se bâtir sur son personnage de Little Miss Bliss, quoi, voilà, quoi, comme elle nous fait depuis admirablement bien, je trouve, depuis qu'elle est dans le main roster, quoi.
Ah oui, ça, moi je suis un fan convaincu. Alors, on enchaîne, on revient un peu chez les hommes. Ouais. Lors du Royal Rumble, on a eu un retour assez sympa, qui n'a pas duré très longtemps. Nous avons revu l'ami Kurt Angle. Et ben, Kurt Angle est à nouveau là ce soir et il affronte Baron Corbin. Pour un match, c'est même pas vraiment une revanche, mais en gros, voilà, c'est les deux derniers managers généraux de Raw. Et ce coup-ci, c'est Baron Corbin qui prend le dessus, hein, qui a une très longue période où il est coincé dans l'Ankle Lock, mais il en sort et il arrive à placer un Deep Six sur
un gros.
Un gros Deep Six, évidemment, puisque c'est son. C'est ce qui le permet de gagner, alors qu'en général c'est pas sa prise de finition, hein, c'est le end of days normalement. Donc on sait pas trop si c'est un match pour rebooster un peu le baron, si Kurt Angle est appelé à continuer à catcher. Est-ce que toi t'as envie là de voir dans cette Road to WrestleMania Angle plus souvent sur le ring et même
alors je sais pas si tu te rappelles, mais vont tendance à dire que moi j'étais pas un énorme fan des anciens, très anciens sur le ring.
Oui.
Kurt Angle, moi en fait, c'est pas que j'aime pas ce gars-là, mais par contre c'est qu'il est cassé de partout, quoi.
Ah, et que ça se voit, ouais.
Et que ça se voit qu'il est cassé de partout, quoi. Et que si tu veux, finalement, même si j'aime pas forcément ces retours-là, ce que je trouve louable de sa part, c'est que là il job.
Ah oui, complètement. Ouais.
Il est au Rumble, il a jobé au Rumble. Là, il vient de Joey, il a jobé lundi soir face à Corbin, qui Corbin, à mon avis, avait un peu besoin de reprendre un petit chouille de crédibilité depuis sa perte de poste de General Manager, quoi. Mm-hmm. Et puis Corbin, je pense que la vie générale, à peu près, pour tout le monde, c'est que c'est un mec qui est moyen, voire très moyen dans le ring, qui a un peu des yeux de veau, qui est pas très expressif. Enfin, c'est pas un catcheur qui fait rêver beaucoup de gens, quoi. Et si tu veux, mais par contre, c'est un vrai heel pour le coup, tu vois, Baron Corbin. C'est un mec, les gens, ils aiment bien le détester. Ils le trouvent mauvais, ils le trouvent. Alors, du coup, on le hue assez facilement. Et donc, que Kurt Angle, il vienne jobber pour lui, qui est le jeune de service, tu vois, le jeune heel de service. Et c'est pas mal que l'ancien, il vient et qu'il ait cette, ouais, pour moi, ça, c'est assez pro, en fait, quoi, de la part de Kurt Angle, quoi, tu vois. Il vient et il met en avant le jeune heel. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'adhère à ce genre à ce genre de manière de relancer un mec comme ça. De la part d'un ancien, j'apprécie ça.
Ouais, comme tu dis, c'est Kurt Angle, il a un personnage que, oui, de mec qui va au courage quoi maintenant. Là, ça se voit qu'il est cassé de partout. Il veut quand même montrer des choses. Il n'arrête pas de perdre contre des jeunes aussi, hein, contre Drew McIntyre.
Ah, ouais.
Il met complètement son honneur de côté. Donc là.
Puis il perd, c'est pas grave pour le public, tu vois.
Oui,
le public, là, il s'en fout que Kurt Angle il perde ou qu'il gagne des matchs. Ce qu'ils sont contents, c'est de gueuler You suck. Se faire briser un petit peu plus, tu vois quoi. Ouais. C'est ça qu'ils aiment, le public américain quoi.
C'est vrai. Après, on verra si on le verra un peu plus souvent ces prochaines semaines. On va continuer notre analyse et on verra qu'il c'est pas le seul vieux qui commence à être à sortir du bois et c'est peut-être pas
ouais.
C'est peut-être pas
très ouais, ouais.
Bon. Écoute, on va rester encore un peu sur des jeunes, puisque ouais. On a d'abord un court passage. On a un passage de Finn Balor qui vient la tête haute. Il vient nous expliquer que la veille, ben, il a perdu, hein, il a tout fait, mais il a perdu contre Brock Lesnar. Et puis Brock Lesnar l'a attaqué ensuite après le match, mais Finn Balor est fier quand même de ce qu'il a fait. Surtout, il sait que si Lesnar l'a attaqué, c'est parce que Lesnar a eu peur, en fait. Lesnar a senti à un moment qu'il allait perdre le match. Du coup, il a eu cette réaction à la fin. Il a tabassé un peu Finn. Mais voilà, le match a été quand même très disputé. Un courageux ouais. Finn Balor. Bon, il est interrompu par Bobby Lashley et Lio Rush qui viennent se moquer de lui en disant que voilà, bah, c'était un scandale que Finn Balor ait eu un match pour le titre universel. Que Bobby Lashley, lui, il en avait jamais encore eu. Hein, c'est qui est une vérité depuis qu'il est là. On croyait qu'il était revenu pour ça, mais en fait non. Du coup, ben, il se fait un petit peu moqué par Finn Balor, qui lui rappelle que quand même, Bobby Lashley, la veille, il est resté même pas une minute dans le Royal Rumble match. Alors Finn Balor, il a
13 secondes.
Ouais. C'est vrai que c'est très très peu pour un des plus gros musclés. Hein.
C'est clair, un des plus gros powerhouse de la WWE. Actuel, quoi, qui se fait bazarder en 13 secondes, quoi.
Exact. Voilà. Bon, on peut au moins lui dire que avec ça et ce qu'il a fait ensuite, il a sûrement causé la victoire de Seth Rollins, finalement, en lui permettant de dormir 20 minutes à l'extérieur du ring, mais...
Ouais. 13 secondes pour Lashley et 13 minutes de repos de Rollins sur la table des annonceurs. Ouais. Il lui manquait qu'un oreiller, voilà.
C'était un peu ça. Mais du coup, voilà, on finit ce segment avec évidemment Bobby Lashley qui est vénère et qui tabasse Finn Balor. C'est un peu ce qui arrive parfois à la WWE, c'est-à-dire qu'on a un heel qui finalement se désigne lui-même son futur adversaire pour le titre, alors que bon, visiblement, il aurait mieux fait de fermer sa gueule peut-être Bobby Lashley parce que ça va être un gros morceau Finn Balor. Est-ce que tu as envie de voir ce match là? Est-ce que Finn Balor c'est ce qui...
Juste en intro, je te dirais juste que bah, les bookers, ils ont bazardé Finn Balor en fait là dans un segment de 3 minutes. C'est-à-dire qu'il est passé du dimanche à titre suprême et puis bah là il se retrouve balancé dans la title picture mais de l'intercontinental. Tu vois, j'ai trouvé quand même qu'ils avaient évacué Balor à la vitesse de la lumière quoi. C'est du dimanche au lundi, il est passé du top au titre intermédiaire quoi. Alors que, attention, je suis un pro titre intercontinental. Hein, j'adore, je kiffe à mort le titre intercontinental. Le seul truc qui me dérange, si tu veux, c'est que Baylor, il était sorti de l'équation du titre universel direct. Voilà. C'est-à-dire, bon, bah voilà, merci monsieur d'être venu, de vous être fait tabasser par la bête, et puis bah, on va passer à autre chose maintenant. Tu vois, ça aurait été bien, hein, une petite interaction, Seth Rollins, Finn Balor, Brock Lesnar. En plus que entre Rollins et Baylor, il y a quand même l'antécédent de la première feud sur le titre universel et tout ça, tu vois. Enfin, pour moi, il y avait moyen de construire un truc autour de ces trois mecs, quoi. Et puis bah non. Du coup, Baylor, il ira vers le titre intercontinental. Mais du coup, je te rejoins. Lashley Baylor, je veux bien voir ce match. Ouais.
Moi, ce que j'ai trouvé d'autant plus stupide, en fait, c'est qu'effectivement, on n'avait pas encore. On n'est pas encore l'info du choix de Rollins, même s'il paraissait évident. Ça ne me dérange pas que Baylor soit évacué assez vite, puisqu'on est vraiment dans une dynamique là depuis que l'autorité a repris le pouvoir, où ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il n'y a pas forcément des rematchs. Mais si Rollins avait pu faire son choix avant, ça serait plus logique que Baylor. Bon, en tout cas, après, ça peut être scénaristiquement compréhensible. Hein, voilà, Baylor, il a eu sa grosse, il a eu sa grosse courbe en flèche là. Puis bon, là, il a perdu, il marque un petit peu le pas. Bon, il va peut-être faire une année autour du titre intercontinental comme Rollins l'a fait cette année. Hein, ça serait tout à fait honorable. En tout cas,
oui, tout à fait.
Au moins jusqu'à WrestleMania, il devrait pas être vraiment dans l'équation du titre universel, quoi.
Non, je pense que là, c'est acté. Voilà, il se dirige vers l'intercontinental et puis c'est un super catcheur, donc de toute façon, j'ai confiance sur le fait qu'il va animer largement cette feud avec Lashley et que ça va nous sortir des matchs bien intéressants. Encore une fois, l'opposition de style, hein, voilà, le power face à au voltigeur fou, quoi. Moi, j'aimerais juste revoir un petit peu le personnage du démon, quand même, parce qu'il manque, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.
Ouais, peut-être pour WrestleMania, effectivement. En même temps, on dit toujours que s'il vient sans trop de raison, c'est galvaudé, donc il faudrait peut-être qu'il faudrait qu'il se fasse tabasser un peu plus par Bobby Lashley.
Ouais, après, je sais pas, écoute, il faudrait savoir si on a un statisticien dans la salle, mais je suis curieux de savoir c'est quand la dernière fois que Baylor il s'est pointé en démon, quoi. Franchement, ça remonte à longtemps, quoi, non?
Oui, sûrement. Alors là, c'est vrai que de mémoire, je ne saurais pas dire depuis quand Finn Balor n'est pas venu en démon, mais...
On aura peut-être quelqu'un qui nous fera un fact-checking.
Ouais. Bah, peut-être que j'entends que tu es en présence d'un ami canin, peut-être que le Big Dog sait, lui. De...
J'ai un canin, ouais. Canin à moi.
Donc nous continuons notre
les show. Tactiques match, on continue. Tu veux, si tu veux, je te relais un petit coup sur le play by play là, et on enchaîne avec un tactique match. Ça te va bien, tactique match?
Ouais, c'était ça, ouais.
Mm-hmm. Ouais, c'était les Revival contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Voilà. Alors là, tu vois, voilà un moment de la soirée hein, de ce Raw que j'ai trouvé plutôt sympa. J'ai trouvé ça bien emmené. Moi, j'aime beaucoup le personnage d'Hawkins là ces dernières semaines. À chaque fois qu'il vient, il fait des trucs un peu originaux. Il surfe toujours sur sa vague de streak à l'envers. Il y a Zack Ryder qui vient faire un retour avec lui pour nous rappeler le temps des Edgeheads. Moi, je suis assez preneur en fait, et j'ai trouvé ça très bien que les Revivals gagnent. Voilà, j'ai trouvé ça super intelligent pour une fois, voilà, messieurs les bookers, ça c'était intelligent. Faire gagner les Revival, c'était ce qu'il fallait. En plus, la réaction de Kurt Hawkins à la fin du match, elle est top. Il est là, it's my fault. Enfin, j'ai trouvé que c'était très bon, quoi. Et voilà, je sais pas ce que t'en as pensé de ce match-là.
Ouais, moi, le match en lui-même était assez sympa, assez court, mais je pense qu'on est au début d'une écriture intéressante. Donc, les rumeurs hein, disent là aussi que les Revival auraient été un peu missionnés, puisque leur démission aurait été refusée. Ils ont pour mission de relancer un peu justement la scène tag team. Donc là, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ces mecs-là qui sont des jobbers, je parle de Kurt Hawkins et Zack Ryder, c'est des gens qu'on a envie de voir plus souvent, qu'on voit pas très souvent et qui ont des personnages attachants. Donc, si on part sur une petite histoire sympa, un peu comme on avait eu Slater and Rhino avec les Edgeheads, mais on peut plus vraiment les appeler comme ça, qui redeviennent champions à WrestleMania, ça peut être bien. De toute façon, j'aime pas trop Bobby Roode et Chad Gable en champion par équipe, donc ça me gêne pas si on change si on change bientôt.
Ouais. Les... Hawkins, en plus, surfe sur une bonne pop en ce moment. Au Rumble, on a eu droit à des chants « Let's go Hawkins, let's go Hawkins ». Bon, pendant tout son run du Rumble, il a eu droit à son chant à lui, quoi. Ça, c'est un petit, c'est des petits détails comme ça, tu vois, quoi. Mais même un mec qui est en mid-card ou qui est en low-card, quand il débarque sur un gros pay-per-view où il a un petit rôle, quand il chope de la pop, lui, ça marche quand même, quoi. Il a des petits passages, mais ça marche quand il vient, quoi. Et Hawkins, c'est en train de prendre, là. Donc, et d'ailleurs, franchement, Ryder, je pense qu'il doit. C'est plus Ryder qui doit son retour à l'écran par rapport à Hawkins que le contraire, tu vois.
Ah
c'est,
oui.
Là, c'est grâce à Hawkins que Ryder il est en train de revenir dans l'équation. Mais moi, je trouve, voilà, je valide. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, je reprends la main. Est-ce qu'on va valider le segment suivant
Alors.
C'est le segment de Elias. Elias est au milieu du ring et il nous joue un joli air de guitare. Mais quand même, il s'est passé des choses dimanche. Hein, il n'a pas été très très clean, Elias. Alors ce soir, la foule commence à le soutenir. Sauf que Elias, il est très très méchant. Il dit beaucoup de mal de Phoenix dans l'Arizona. Il dit que les fans l'ont déçu, donc qu'ils n'ont pas été à la hauteur de son talent. Donc il va arrêter de chanter. Il nous dit carrément qu'il va arrêter de chanter désormais pour la foule. Et il est interrompu par Jeff Jarrett, qui était donc là ce dimanche, J-E-R, tout ça là, et accompagné par Road Dogg, hein, le fameux...
Avec le t-shirt de Man.
Avec le t-shirt de Becky Lynch, exactement. Ils se mettent, les deux vieux, à chanter autour du ring, et ils chantent avec leur voix de vieux catcheur de 60 ans. Et Elias, qui n'est pas content, qui va leur exploser une guitare sur le dos à chacun. Hein, et la foule n'aime pas trop ça. Donc voilà, on a les retours des anciens. Et Elias, étonnamment, hein, alors qu'il avait commencé un... Il avait fait un face turn il y a même pas 3 mois, qui marchait vraiment bien. On repasse de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on en pense ?
Eh ben écoute, juste une petite précision. En fait, juste avant le segment, enfin... Il y a eu juste un minuscule segment avec Daniel Bryan. Et en fait, parce qu'en fait, c'est important pour la compréhension du Raw, parce que c'était pour. Voilà, Bryan, il était là pour dire ben voilà, il attendait la décision de Seth Rollins, en fait, quoi. Et que d'ailleurs, que Seth Rollins polluait l'air qui, avec son burning down, etc. Enfin bon, il allait faire taire les rêves, je crois que c'est ça qu'il dit, Shut the Dreams du Slayer, quoi. Ouais. Donc. Voilà, donc du coup, on sait que Daniel Bryan, il est dans la salle quand même, quoi, à ce moment-là, quoi. Et là, effectivement, on arrive sur Elias. Alors, moi, Elias, je vois tout de suite ce que tu as dit. Elias, moi, je comprends même pas qu'il l'ait fait heel turner. En plus, avec Jeff Jarrett, quoi. Jeff Jarrett, c'était un putain de heel, quoi. C'était un heel pendant quasiment toute sa carrière. Et ils nous font turner Elias en heel, quoi. Tout ça parce qu'il va fracasser des guitares sur un Hall of Famer. Ouais. Et là, oh, ça fait chier, quoi. Ça fait chier de voir Elias. Alors là, moi, je le dis, hein, peut-être qu'il y a des gens, ils sont super fans. Mais moi, je vous le dis, je suis contre le heel turn de Elias. Putain, quelle misère. Ah, moi, franchement, ça m'a fait trop chier. Pendant le Rumble, j'ai eu un doute, en fait, si tu veux. Parce que le Rumble, je me suis dit, heel face dans le Rumble, des fois, c'est compliqué. Parce que dans le Rumble, tu dois sortir tout le monde, de toute façon. Donc, il sort Jarrett. Bon, voilà, quoi. Tu vois, quoi. C'est pas, il n'y a pas. Forcément besoin d'un turn à ce moment-là. Par contre, lundi soir, là, c'était clairement un turn de Elias, quoi. Ouais. Et j'ai envie de dire merde, voilà. Merde.
Écoute, moi, je te rejoins pleinement. C'est incompréhensible, un mec qui avait l'air de, enfin, niveau gimmick, niveau même merchandising, je pense que c'était vraiment un truc qui marchait bien, Elias. En plus, il nous dit clairement, c'est même pas un heel turn, c'est qu'il nous dit qu'il va renoncer à son personnage, quoi. C'est un peu comme. Pour moi, ça me fait très peur. Ça me fait. La première chose à laquelle j'ai pensé, en fait, c'est quand Alberto Del Rio a commencé à arrêter de venir avec la voiture, avec son manager, avec. Quand il arrivait plus que. En fait, j'ai l'impression que des fois, au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, les bookers se disent non, ça sert plus de. Ça sert plus à rien de maintenir le personnage, on enlève tout ce qui est autour, quoi.
Ouais, on passe à autre chose, quoi. C'est vraiment étrange, quoi. Enfin, là, il y avait vraiment un truc, là. Tu vois, j'attendais pas ça, en fait, quand j'ai vu Jarrett arriver. Parce que, en fait, moi, si tu veux, je suis un vieux suiveur de catch. Moi, Jeff Jarrett, j'ai suivi, quoi, tu vois, du temps de ses beaux jours. Je te garantis, quoi. Jeff Jarrett, c'était un heel. C'était tout le temps. Quoi. Et donc c'était hyper facile de garder Elias en face là avec Jeff Jarrett, quoi. Et non, ils ont utilisé le contraire, ils ont fait le contraire. Bon, voilà, c'est un choix de la WWE, ce n'est pas le mien.
Ouais, clairement. Alors moi, j'avoue que on va pas trop devancer l'analyse de SmackDown qui ne va pas tarder, mais là il y a deux heel turns dans la semaine qui me sont très très douloureux, mais
je crois savoir de quel heel turn tu parles là. Ouais, pas plus.
Voilà, bon, écoute, on va continuer après ça. Il faut quand même s'en remettre. Hein. Rien de très impressionnant, mais on continue d'avoir des matchs qualificatifs pour Elimination Chamber féminin. Donc Natalia fait équipe avec Dana Brooke. Hein. Dana Brooke a vraiment essayé de la convaincre dans les coulisses qu'elle était la meilleure, qu'elle était même meilleure que Nati. Et elles affrontaient le Riot Club. Alors étonnamment, c'est... Enfin étonnamment, on va voir si ça t'a surpris à toi, mais moi ça m'a un peu surpris. C'est Liv Morgan et Sarah Logan qui sont là. Il n'y a pas de Ruby Riot. Enfin si, elle est là, mais elle sert juste à tricher en gros.
Voilà.
Et bah du coup, c'est effectivement le Riot Squad ou Club, je sais même plus comment on l'appelle, Riot Squad, oui, qui se qualifie, et Dana Brooke a perdu, la pauvre, elle est un peu désolée, mais Natalia ne veut même plus lui parler, donc là aussi je crois qu'on a une alliance qui aura duré un soir, quoi. Est-ce que c'est pas un peu bizarre ces matchs qualificatifs avec des tag teams qui n'existaient pas la veille?
En fait, si tu veux, je crois, alors l'histoire, c'est que de toute façon, ça a été un choix. Les plans ont changé, comme dirait un certain journaliste. Parce qu'en fait, Ember Moon s'est blessée. Et oui. Ember Moon devait catcher avec Natalia, normalement. Donc, du coup, Dana Brooke a pris au pied levé la relève. Et comme de toute façon, entre Natalia et Dana Brooke, normalement, il y a dissonance, quoi. Donc finalement, c'était plutôt logique qu'il y ait de la dissonance entre elles deux pendant leur match, quoi. Et là, elles étaient face à une équipe, qui a l'habitude de catcher ensemble, qui est une vraie, le Riot Squad, c'est quand même une vraie équipe, quoi. Donc, ah oui. Donc du coup, il y avait une vraie équipe face à un couple dysfonctionnel, on va dire. Et donc, pas tellement de surprises. Voilà, le Riot Squad, c'est un peu comme Tamina et Naya. Moi, je trouve que, encore une fois, c'est, le Riot Squad, c'est pas étonnant de les retrouver dans l'Elimination Chamber. Ça aurait même été, franchement, pas mérité qu'elles y aillent pas. Vu, c'est quand même elles le clan, non, quoi. Donc on les aime ou on les aime pas, mais au final c'est quand même elles le clan du show rouge au niveau des filles. Et pour moi c'est logique et mérité qu'elles soient dans l'Elimination Chamber, quoi.
Oui, bah de toute façon si elles ont ce format là, c'est sûr que ça aurait été bizarre de s'en priver. On verra, on attend quand même pas mal ce match Elimination Chamber. Après là, oui, les confrontations pour la qualification étaient dispensables, mais ça fait un enjeu, quoi.
Ouais.
Donc du coup, alors au niveau des filles, hein, c'est pas fini puisqu'on a du lourd, on a encore du gros lourd, on a Ronda Rousey carrément qui arrive sur le ring pour un peu déjà célébrer sa victoire de la veille contre Sasha Banks. Et pour rappeler qu'il y a un an tout pile, elle faisait ses débuts à la WWE. Souvenez-vous, elle venait pointer du doigt le logo WrestleMania à la fin du Rumble féminin. Et un an après, elle est championne. Donc, ouais, on va dire que tout s'est bien passé pour elle cette année-là. Mais elle a quand même beaucoup de mal à faire sa promo parce que la foule l'a eue, la foule ne l'écoute pas, la foule réclame Becky Lynch. Ronda, elle est complètement perdue. Elle sait pas quoi dire. En fait, elle n'arrive pas à être. Elle n'arrive pas à prendre sa promo. Elle n'arrive pas à prendre le vent de la foule. Elle sait pas trop quoi dire. Elle est interrompue étonnamment par Bayley. Bayley qui se rappelle qu'elle aussi, c'est censé être une bonne catcheuse. C'est une ancienne championne féminine. Et donc, Bayley, elle demande là, de suite, maintenant, un match de championnat contre Ronda Rousey. Au nom de quoi, qu'elle est la copine de Sasha Banks, en gros qu'elle est la moitié de la, comment ça s'appelle, Hug and Boss Connection, c'est ça?
Hug and Boss Connection, ouais c'est ça, ouais.
Voilà, bon bref.
Ouais bref,
le nom est pas terrible. Et du coup on a un affrontement qui est pas mauvais. Alors j'avoue que j'ai pas pris de notes, je sais que
bah, alors, écoute,
vas-y toi, tu as peut-être plus
ouais, le match était pas mal. Bayley elle a retrouvé un peu de pop pendant ce match, en fait. Et autant, tu vois, pendant sa promo, quand elle a défié Ronda, c'était pas extraordinaire.
Ouais.
Par contre, elle a bien retourné le public une fois qu'elle a été dans le ring, quoi. Mmh. Et du coup, ça a donné un bon match parce que il y avait de l'ambiance dans la salle, tu vois. Et puis parce qu'il y avait cette réaction aussi quand même qui était dingue du public vis-à-vis de Ronda Rousey, parce que Ronda Rousey, quand même, tu vois, au moment où elle est rentrée. Qu'elle est arrivée sous le titre en ton, quand sa musique s'est déclenchée, au départ il y a eu la pop classique, la foule qui est heureuse et tout, et quand sa musique s'est terminée à Ronda, c'est devenu incroyable l'animosité du public, quoi. Ils voulaient tous Becky, quoi. Tout le monde voulait Becky. D'ailleurs elle le dit dans sa promo, elle sait que maintenant il y a quelqu'un qui doit faire un choix, quoi. La personne qui doit faire ce choix, c'est Becky Lynch, quoi. Et quand elle dit ça, derrière le public, mais ça repart dans du Becky comme des fous furieux. Là-dessus, Bayley, elle arrive. Et donc là, il y a une espèce de moment un peu, ouais, c'est un un peu frais, quoi, comment elle a accueilli Bayley, quoi. Mais par contre, eh ben, la nanette, elle a géré dans le ring. Elle a fait un bon combat. Elle s'est fait battre parce que, bah, voilà, enfin, je sais pas si tu me diras ce que t'en as pensé, mais pour moi, il n'y avait pas de doute, hein, que.
Ah, bah oui,
que...
non.
Aller gagner, quoi. Donc ça, je pense que là-dessus, on peut éliminer ça tout de suite, quoi. Elle fait un cross arm bar et puis voilà, quoi. Et puis elle félicite Bayley d'ailleurs, hein. Après à la fin, elle la joue fair play, quoi.
Ouais. Effectivement, moi j'ai trouvé, comme tu dis, que l'affrontement a eu le mérite de on va dire de déconcentrer la foule. Ils se sont pris au jeu du match et ils ont un peu oublié la situation. À voir comment ils vont jouer le personnage de Ronda dans les prochaines semaines, parce que là, effectivement, je crois que le côté babyface va être dur à tenir, et ça me fait presque penser à, ben, un peu à Roman Reigns, quoi. Ronda aussi, on commence à trop la voir tout gagner, quoi. Elle nous saoule un petit peu, peut-être.
Ouais. Ah bah, écoute, moi, pour le coup, moi, j'aime bien. Donc, ouais, moi, je suis assez fan. Hein. Je suis très Ronda Rousey. UFC, quoi. Et donc, si tu veux, enfin, je la regarde d'un. Ah, entre, enfin, et puis d'ailleurs, on va en parler après, là, mais, bon, assez importante qu'elle fait dans sa promo après tout ça. Et, moi, je suis assez client, hein. Pour l'instant, écoute, moi, franchement, je fais partie de ceux qui sont pas lassés par Ronda Rousey et qui trouvent que justement, elle progresse de semaine en semaine et de mois en mois. Je l'ai vue à Paris, l'année dernière. Et, franchement, en live, elle m'avait bien impressionné, alors que c'était dans un tag team match, en plus, quoi. Et, si tu veux, du coup, moi, je trouve que là, je trouve qu'elle est vachement critiquée, quoi. Et alors, je veux pas être un super méga défenseur, mais je trouve que c'est un peu injuste par moment son traitement à Ronda Rousey. Mais bon, après, je peux entendre qu'il y ait des critiques, hein. C'est normal, hein. De toute façon, ça fait partie du game, hein. Mais bon, voilà. Moi, je fais partie des gens, en tout cas, qui aiment bien Ronda Rousey.
Ouais. Bah après, moi, je tout à fait. Respecter ce qu'elle fait effectivement sur le ring. Là où j'ai plus de réserves, effectivement, c'est plutôt dans la gestion de son personnage, qui encore
une fois, pas trop son micro.
Ouais, et puis encore une fois, tu l'as souligné. Voilà, elle est vendue comme la baddest woman on the planet. Bon, que ce soit contre Natalia, contre Sasha Banks ou contre Bayley, finalement, elle joue toujours la meuf sympa qui fait des câlins à la fin, quoi. C'est un peu ça.
Ouais, elle serre la main à tout le monde à la fin. C'est vrai, ouais. Elle est en mode fair play, qui des fois peut-être colle pas justement avec ce que tu disais sur le badust, quoi. C'est vrai que le côté badust, quand elle fait ça, bon c'est, je sais pas, c'est, je suis assez d'accord en fait, hein, là-dessus, hein, sur cette analyse-là, hein, mais moi je pense qu'on se rend pas, peut-être pas compte, nous en Europe, le phénomène que c'est cette nana aux États-Unis, quoi.
Oui.
Et si tu veux, on a peut-être pas le recul, nous en tant qu'Européens, sur vraiment ce qu'elle représente Ronda Rousey aux États-Unis, quoi. Et que Ronda Rousey soit à la WWE, tu vois, même ma compagne, elle s'est mise à s'intéresser au fait que je regardais le catch parce qu'il y avait Ronda Rousey, quoi. Tu vois?
Oui, c'est vrai, elle a apporté une dimension énorme.
Et ouais, mainstream. Ouais, hein, au catch féminin, elle est en train d'apporter une dimension mainstream incroyable. C'est pas Becky, hein, qui apporte ce côté mainstream au catch, hein. C'est Ronda Rousey, hein, clairement, hein, clairement. Becky, elle, c'est la hype catchesque, quoi. C'est la baby girl de l'IWC, quoi, on va dire, quoi. Ouais, mais par contre, Ronda Rousey, c'est un autre phénomène, quoi. Ronda Rousey, c'est un phénomène planétaire, quoi.
Ouais, c'est tout à fait. Mais écoute, je vais attraper ta transition au vol puisque Becky Lynch arrive.
Yes.
Lynch, Je te laisse à ta joie. Je ne sais pas si la foule l'espérait, y croyait vraiment, mais Becky Lynch est là à Raw et elle arrive avec son micro et voilà, ben, elle, pour le coup, elle est vraiment dans
la boum, c'est arrivé de folie
dans le badass. Ouais, si tu veux, je te laisse nous raconter tout ça puisque tu as l'air d'être très enthousiaste.
Ah, ouais, moi, j'étais au taquet. Hein. De toute façon, j'étais au taquet au Rumble Azuka. Je considérais qu'il fallait impérativement que Becky ait perdu contre Azuka, quoi. Et parce que je l'aurais pas vu rentrer dans le Rumble alors qu'elle aurait été championne, complètement con, quoi. Et j'avais peur d'une seule chose au Royal Rumble, c'est qu'elle perde face à Azuka et qu'il nous fasse une Daniel Bryan 2014, quoi. C'est-à-dire qu'elle perde son match précédent et qu'elle rentre pas dans le Rumble, tu vois. Bryan, il avait perdu face à Bray Wyatt. Et il n'était pas rentré, quoi. Et là, c'était ma seule, hein, pendant tout le pay-per-view, enfin jusqu'à la fin du Rumble féminin, j'ai eu peur que d'une seule chose, c'est qu'elle ne rentre pas, quoi. Bon, elle est rentrée, on connaît la suite. Donc là, j'arrive sur le Raw. Donc elle arrive sur le ring, elle fait face à Rousey direct, elle se met en face d'elle direct. tôt, quoi. Et elle lui dit qu'elle, comment elle dit, elle dit oui, je suis venu trouver Ronnie. Donc déjà, ouais, elle l'enchaîne. Et qu'elle a pas mal entendu parler d'elle. Enfin, elle la tonne, quoi. Et puis elle lui rappelle, ça c'était génial, direct, elle lui rappelle que la dernière fois, bah, qu'elle s'est pointée à Raw, elle l'a humiliée, la championne de Raw, et sur son propre terrain, quoi. Et ça, elle commence comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est ses trois premières phrases, quoi. La nénette, elle met toute la salle in the pocket, quoi. C'était énorme. C'était, tu te rends compte, là on parle juste du tout début du segment, quoi. Voilà, quoi. Donc déjà, ça commençait sur des bases énormes. Après, elle annonce que, bah, évidemment, elle dit, elle est pas Seth Rollins. Donc elle va annoncer cash pourquoi elle est là et elle les pose sur la table, c'est The Man, quoi, voilà. C'est The Man, quoi. Elle arrive, elle les pose sur la table et dit bah voilà, moi j'attends le show de Raw là, vas-y je t'enchaîne, vas-y je te prends à WrestleMania, quoi. Donc je sais pas, juste ça déjà, mon cher Rafa.
Ah bah moi oui, complètement convaincu par l'intensité de Becky Lynch. De toute façon, je suis comme toi, hein. J'étais très surpris. Oui, je m'attendais pas à ce qu'il la fasse arriver si vite. En plus, elle arrive en traînant la jambe. Donc, je trouve que tout est bon chez Becky Lynch. Tout est bien écrit. Tout contribue à agrandir son mythe, en fait, son charisme. Voilà, elle est blessée à l'avance. Elle a vraiment un côté. On dit des fois The Rock, on dit des fois Steve Austin. Mais ouais, elle a le charisme des plus grandes légendes là déjà de la WWE. Donc je te laisse finir le segment, mais ouais, c'est...
Et en fait, une fois qu'elle a fait ça, elles sont pas en promo, quoi. Et là, Ronda Rousey, elle a du mal, quoi. Elle galère, elle rame sur les premières phrases, c'est très très dur, parce qu'elle lui fait un truc sur je vais te casser la gueule plus vite que Nia Jax, tout ça, tu vois, quoi. Mais c'est pas franchement, tu vois, comme quoi, même en étant fan de Rosie, tu vois, j'hésite pas à dire que voilà, elle foire le début de sa promo, quoi. Ouais. Mais après, derrière, putain, quand elle a commencé à un moment, je te jure, j'ai même cru qu'elle allait plus. Et puis, tout d'un coup, elle s'est reprise. Putain, et là, elle lui balance le truc qu'elles ont le même âge, mais que elle avait déjà fait le main event de l'UFC, alors que c'était déjà un gros nom et tout ça depuis déjà 10 ans sur tous les rings du monde, quoi. Et que, en fait, The Man, bah, c'est The Man que depuis 3 mois, quoi.
Ouais, ça c'était une belle phrase. Depuis quand t'es The Man?
Ah ouais, ça c'était bon, ça putain, là c'était badass, là, tu vois, là.
Et c'est ça, bien trouvé. Badass, quoi.
Voilà, et donc elle lui dit que chaque ring sur lequel elle met sa propriété, qu'à WrestleMania ça sera pareil, quoi. Et qu'elle va lui montrer, elle va lui montrer que ça fait 10 ans qu'elle est sur les rings et que c'est elle la vraie boss, quoi. Et c'était bon parce que du coup, Becky qui est dans une telle position de force, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, là, il y a eu un moment de, voilà, un vrai moment de tension, méchant, et ouais, c'était bon, hein, j'ai bien kiffé, là, cette fin de promo de Ronda, là, a bien rattrapé son début foiré, quoi.
Ouais, bah écoute, on a un très gros segment, là, c'est, je sais plus trop de mémoire de, je vais revenir dans mes archives personnelles de fan de catch, mais les moments où les vainqueurs des Rumble ont officialisé leur choix, mais là, on a vraiment. Ouais, on voit déjà les clips promo de la WWE pour nous résumer cette FUD, quoi. Ça va être
Ah ouais, ça va ça. La vidéo, tu sais, qui passe avant chaque match dans il va sortir un truc à cracher le sang, quoi, parce que là ils vont avoir 2 mois de shoot là entre parce qu'elles vont faire des promos séparées chacune show, parce qu'apparemment Becky, elle va rester à SmackDown jusqu'à WrestleMania. J'ai pas l'impression qu'il soit question qu'elle aille à Raw, hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas compris ça comme ça pour l'instant, quoi. Et ça s'annonce, ouais, ça s'annonce saignant. Ouais. Franchement, ça s'annonce super feud, quoi. C'est que du bonheur.
Ouais. Écoute, tout est dit. Alors, on va passer à la suite. Hein. Mais c'était un gros segment dans ce milieu de Monday Night Intro. C'était Becky Lynch, quoi. Encore et toujours, qui vient même.
Juste un dernier truc sur la foule, hein, parce qu'on était encore dans la salle des Suns. Et franchement, pendant ce segment, ça, tu vois, c'est ça que je kiffe quand je regarde du catch, quoi. C'est quand le public, tu vois, il est à 1000%, quoi, et que la moindre interaction, même quand Ronda, justement, un peu son début de promo, quand elle répond à The Man, quoi. Et ben, le public derrière, il y a une espèce de putain de brouhaha, de fou derrière, quoi. Ça gronde, on sent que ça va exploser. Et une fois que Ronda, elle termine de parler, qu'il y a le dernier face-à-face, elles sont les yeux dans les yeux, le public qui repart sur le béqui, mais tu te dis, mais la salle, elle va exploser, ils vont péter tous les gradins, quoi. Et ça, j'adore, quoi. Dans le catch, ça, c'est un moment, c'est jouissif dans le catch.
Ouais, je suis d'accord avec toi, et je pense que là, il y a... Ouais, on parle souvent de... Ben, toutes les semaines, hein, nous analysons le catch, et là, il y a des moments comme ça où ils y arrivent, quoi. Là, ils y arrivent complètement. C'est bien écrit, le casting est bon, les interprètes, donc là, elles sont... Enfin, effectivement, Ronda, là, à la fin, quand... Elle change de, je sais pas si t'as remarqué, mais elle change vraiment la position même de sa main, comment elle tient le micro, elle le tient un peu plus vers le haut, en fait, elle le tient à l'envers, comme si elle allait mordre dedans, enfin, elle a une hargne qu'elle a réussi à bien rattraper, ouais, rien à dire là-dessus, très bon moment de catch. Qu'est-ce qui nous attend ensuite ? Alors, ensuite, écoute,
le poids lourd.
Le poids lourd. Alors, le poids lourd de cette division masculine, maintenant, c'est
les deux poids lourds. Les...
Oui, oui, on peut. Oui,
là, on avait un match de Golgoth, hein.
C'est vrai, c'est vrai. On avait un match les deux plus costauds peut-être en ce moment. Hein. C'est Braun Strowman qui en coulisses auparavant avait serré la main de Seth Rollins, hein, en le félicitant pour sa victoire au Rumble, en lui disant de prendre la bonne décision. Donc on a une sorte de complicité entre les deux qui pour le coup va vraiment, je pense, entériner aussi le fait que Strowman, lui, c'est l'inverse, il est redevenu côté face il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et puis en plus, Strowman il était un peu blessé ces derniers temps. Donc ce soir, il affronte Drew McIntyre. Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris de voir cette affiche. Ça fait vraiment, ça fait un peu affiche de pay-per-view. Hein. Est-ce que ça n'arrive pas trop tôt? J'avais un peu peur de l'issue finale de la rencontre. Deux énormes gabarits, donc il y a eu, je ne sais plus tout dans la mémoire, mais il y a eu quelques gros coups. Hein. Ils ont une bonne alchimie, je trouve. Il y a de quoi faire une belle feud entre les deux bonhommes. Drew, c'est impressionnant. Drew, il arrive à être totalement crédible. C'est un des rares qui est crédible, je trouve, sur le ring en termes de gabarit face à Strowman, notamment quand il place ses coups de boule là. Et malheureusement, on n'aura pas vraiment de fin honnête, puisque Baron Corbin, tiens, à nouveau, qui était encore là, il se rappelle qu'il y a quelques mois, c'est lui qui avait causé, avec Drew McIntyre d'ailleurs, la blessure de Strowman, hein, le passage à l'hôpital, l'épaule blessée, avec les vidéos un peu gore qu'on avait vues de l'opération là. Et bien, Baron Corbin, il arrive avec une chaise, il tape Braun Strowman, mais Braun Strowman tape la chaise et c'est la chaise qui a le plus mal des deux. Hein. C'est énorme. Il envoie un coup de poing dans la chaise. Baron Corbin, il la lâche. C'est spectaculaire. Heureusement pour le Baron, McIntyre était toujours en embuscade et va placer un Claymore Kick. Et ensuite, nous aurons droit à une sorte de double chokeslam sur sur l'escalier, sur les marches en métal du ring. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, mais on reprend exactement en fait ce qui s'est passé il y a 2 mois. Quoi. On n'a plus, c'était qui le troisième ? C'était Bobby Lashley. On n'a plus Bobby Lashley dans l'équation, mais voilà, ils sont deux gros costauds contre Strowman. Quels vont être les plans pour WrestleMania, pour tous ces jeunes hommes beaux et musclés qui n'ont pas gagné le Rumble ? Ouais.
Et ouais, qui n'ont pas gagné le Rumble, ouais, parce que mine de rien, c'est McIntyre.
Quoi. Attends, est-ce que tu peux juste la refaire? Je crois que ça a pas mal coupé, je t'ai pas entendu.
D'accord, okay. Je disais que concernant Strowman, et il pouvait prétendre légitimement à la victoire au Rumble, quoi.
Oui.
Et du coup, on les retrouve tous les deux à s'affronter l'un l'autre dès le lundi qui suit. Bon, d'accord, les deux Golgoth, quoi, de Raw, quoi, vraiment, les deux monstres. Il y a Lashley en troisième, on va dire, derrière. Mais vraiment, Strowman et McIntyre, dans le ring, c'est wow. Et le combat, il était pas mal, hein. Tu te dis, des mecs de ce gabarit-là, qui sortent. Moi, je suis vachement impressionné par le finisher de McIntyre, le Claymore, là.
Ah oui.
Et c'était peut-être. Tu l'as bien dit, en fait, c'est peut-être surprenant de les retrouver aussi vite l'un face à l'autre. Je sais pas trop quel est le programme, en fait, pour ces deux mecs-là, parce que le Universal me semble assez bouché, l'Intercontinental, ça a l'air d'être lancé sur autre chose. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Et après, l'arrivée de Corbin, ça revient en fait à ce qu'on a dit au tout début du podcast, quoi. C'est que Corbin, il est dans son rôle de heel, il vient aider un autre heel. Ils cassent la gueule à Strowman, ils se font plaisir tous les deux, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, pas plus de sens que ça, finalement, quoi. C'était bon, on est venu se faire la peau à Strowman. On lui met un petit double choke slam sur les escaliers et puis on repart à la maison. Voilà. J'ai envie de te dire que ça, c'était un segment, un match spécial pour Vince McMahon, quoi. Il s'est fait plaisir, il s'est regardé deux monstres pendant 10 minutes se foutre plein la gueule, quoi. Voilà.
Peut-être bien.
C'est le genre de match où Vince, il jouit, quoi. Un ring pour Vince, c'est le truc ultime du catch, quoi, tu vois.
Bon, c'est vrai, en tout cas, toujours est-il que là, pour le moment, ces deux-là, ils vont faire une road où on leur espère, on leur souhaite une belle affiche et un bon match à WrestleMania. Je pense qu'ils ont largement les moyens. Maintenant, voilà.
Ouais, mais dans quoi ?
Ça sera pas eux, en tout cas, les top stars, c'est sûr, cette année. Ça commence à faire beaucoup hein, pour Strowman qui, l'année dernière, bon, il était avec le petit Nicolas, c'était rigolo, mais c'était pas non plus le top niveau. Voilà, toujours pas de palmarès en fait pour Braun Strowman, à part tag team avec Nicolas et puis le trophée dégueulasse du Greatest Royal Rumble. Là.
Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est étrange hein, le traitement de Strowman hein, quand même, hein, parce qu'il est grave aimé par la foule. Depuis, même c'est un heel turn là qui a plus ou moins fonctionné d'ailleurs, hein, franchement. Hein, mais globalement, c'est un mec qui est hyper aimé par le public et qui va nulle part en fait. Il va nulle part. Il est là, il défonce des gueules, il colle des power slams et finalement, il fait pas grand chose d'autre quoi. Il y a pas, il faut pas oublier qu'il a été Mr. Money in the Bank quoi et que ça a pas été une grande réussite quoi.
Franchement.
En tant que porteur de mallette, ça a été un des porteurs de mallette les plus insipides qu'on ait eu ces dernières années, quoi, au final, quoi. Et on peut pas dire qu'on a rêvé devant Braun Strowman, Mr. Money in the Bank, quoi. Tu vois, je suis vachement, moi, je l'aime bien, hein, ce gars-là. Et quand même assez déçu de son traitement, quoi. Donc, du coup, pour WrestleMania, le seul truc qui m'inquiète, c'est que j'espère qu'ils vont pas faire gagner, ils vont les coller dans la André the Giant Battle Royale, et puis ça va se terminer comme ça, quoi. C'est McIntyre ou Strowman qui vont gagner la André the Giant.
Je sais pas, écoute, on verra, il y a encore une carte à écrire. Moi j'ai l'impression que Strowman, finalement, est-ce que c'est pas bon signe entre guillemets? Est-ce qu'il est pas dans un personnage presque à la Undertaker où il peut vraiment faire des années entières sans toucher une ceinture ou sans s'y intéresser, mais il est tellement, comme tu dis, à part, populaire, géant, que bah finalement autant donner la ceinture à d'autres qui en ont plus besoin. Hein,
Ouais, en fait, peut-être qu'il fait partie des. En fait, le personnage se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de ceinture, finalement, pour exister au sein du show, quoi.
C'est vrai. Mais bon, après, là, il
faut. Comme Elias. Elias, quand tu regardes Elias, il ne chasse pas les ceintures. Elias, il est dans son rôle de personnage, il affronte des mecs dans des. Mais Elias, il a eu combien de title shots, Elias, depuis qu'il est dans le main roster? À part, je crois qu'il en a eu un à l'Elimination Chamber. Et puis après, peut-être un ou deux, trois shots pour l'intercontinental, peut-être à quelques occasions. Et voilà, hein, c'est tout. Hein.
Oui.
Et Elias, il a jamais touché de ceinture, Elias. Et bah, Strowman, bizarrement, peut-être que Strowman, c'est. Bon, Strowman, il a quand même gagné le Money in the Bank. Il a gagné le Greatest Royal Rumble à la con, là. Il a gagné le tic-tac team, comme tu l'as bien dit, dans un truc à la con aussi, quoi. Bon, c'est un personnage. Ouais, il y a un personnage à part. Hein, voilà.
Ouais, en tout cas, voilà, ça sera pas pour eux encore le main event de WrestleMania et nous y arrivons. Nous y arrivons à cette fin de Raw. Donc c'est Brock Lesnar et Paul Heyman sont là ce soir. C'était annoncé, hein, c'était Triple H qui nous avait dit, je crois, qu'il y avait et Daniel Bryan et Brock Lesnar ce soir. Il y avait le champion universel et le champion de la WWE pour que Seth Rollins puisse faire son choix en toute connaissance de cause. Donc Paul Heyman se lance dans une promo un peu bizarre qui fait un peu, je sais pas trop comment décrire, on va chercher les mots ensemble. En gros, il dit que Rollins, il faudrait qu'il choisisse Daniel Bryan parce qu'en gros, personne ne souhaite de se retrouver contre Brock Lesnar. Bon, ouais, pourquoi pas. Seth Rollins, en tout cas, il n'est pas tout à fait d'accord. Il arrive. Il va cette fois-ci se placer face à Lesnar. Il va faire un petit Eight-way, pardon, je suis pas très bon. Ouais, bon, un petit les yeux dans les yeux, quoi, comme on dit. Et Brock Lesnar, eh ben, il a pas trop le temps de réagir, que déjà, il se prend un coup de poing, il se prend un coup de genou, il se prend pas mal de choses. je sais plus trop ce que Rollins lui met. Il lui met pas un high knee, quoi, un coup de genou, hein, c'est ça.
Oui, il lui met un coup de genou, ouais c'est ça, ouais, il lui met un coup de genou. Mais c'est marrant en fait parce que finalement ça c'est au catch la manière de dire bah voilà, challenge accepted, tu vois. c'est au catch, t'as pas besoin d'arriver forcément et de prendre le micro et dire oui c'est toi que je vais affronter. Non, tu peux très bien arriver, te mettre juste les yeux dans les yeux face au mec et puis lui mettre un gros pif, quoi. Et ça fait acte de signature de contrat, quoi. C'est ça qui est sympa dans le catch aussi.
C'est ça qui est bien. Et du coup, ben, Rollins ayant signé sa part de contrat, Brock va signer la sienne puisqu'il va reprendre le dessus.
C'est ça.
Il reprend le dessus assez vite et puis il va placer trois F5 ou quatre sur Seth Rollins.
Oh, putain, plus que ça. Non, et je crois qu'il lui en met pas six. C'est pas un truc...
Peut-être.
Si, c'est ça, il lui en met 6. Si, si, attends, je vais checker en même temps, mais c'est bien ça, il lui en met 6. En fait, il lui en met 5, et là, il y a une espèce de coupure, il retourne, il redescend, il fait son air, je vais couper tout le public, et puis finalement, il y retourne, quoi. Et puis, là, il le sixième qu'il lui met, d'ailleurs, Rollins le vend super bien, quoi. Et le sixième qu'il lui met, il lui met un ultime, quoi. Ouais. Et ouais, voilà, c'est la manière à de sceller les contrats lui aussi, quoi. Voilà.
Ouais. Bon, bah, du coup, écoute, on a notre main event de WrestleMania, quoi. On aura Seth Rollins contre Brock Lesnar. Alors, est-ce que t'es chaud et est-ce que ce segment te donne l'impression que Seth Rollins a une chance?
Alors, ah là là, ça c'est épineux, hein.
Ouais.
C'est très épineux même. Alors, écoute. Dans l'absolu, l'affiche en elle-même, ouais, pas de problème, quoi. De toute façon, j'avais aucun espoir que Brock Lesnar ne perde le titre jusqu'à Mania, hein, donc c'est assez acté. Voilà, quoi. Donc, je veux dire, c'est aussi tout ce qui fait perdre l'intérêt au titre universel, hein. Donc, ça, c'est un autre débat, quoi. Mais voilà, c'était acté que de toute façon, on aurait Brock Lesnar à WrestleMania. Donc, Seth Rollins, pour moi, c'est le meilleur catcheur des 5 dernières années. Voilà, je le dis haut et fort. Moi, je crois qu'au cahier du catch, il a été élu deux années consécutives meilleur catcheur.
Entre
2014 et 2018, là, on va dire.
C'est la récompense qui fait foi, hein, c'est dans le monde du
catch. Ouais, voilà, dans le monde du catch, c'est un peu la Bible, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, du coup, mais je veux dire, sur les. Et dans le top 3 des main eventers, quoi. Voilà. Il y a, donc, qu'il soit WrestleMania 2019, bah, je dis respect et tu sais quoi, et bah, ça sera mon favori. Je pense qu'il va gagner. Voilà. Ouais. J'en suis sûr, hein, c'est pas du tout, c'est une prédiction, c'est et moi pour moi favori. Je sais la bête, moi j'en peux plus. Moi je fais partie de ceux-là pour le coup, la bête, moi j'en peux plus. Je reconnais que dans le ring il délivre la marchandise, que ce mec c'est assez incroyable, mais quand il a des mecs qu'il aime bien en face de lui, il bosse bien et il selle bien aussi, ce qu'il a parfaitement fait avec Baylor. Avec Baylor, il a fait un super selling, quoi. Franchement, ouais. Le Lesnar, il s'est sorti les doigts du cul, là, tu vois. Et pour moi, c'est une belle affiche, c'est une belle affiche. Dans l'absolu, c'est une belle affiche, quoi. Puis Seth Rollins, il est dans. Alors, on parlait de Becky tout à l'heure, hein, mais bon, le Seth fucking Rollins, quoi, il est dans une pop, là. Pouah, là, 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 mais putain, il claque des doigts avec le public et ça marche. Et même quand il fait des promos pas extraordinaires, des fois, quoi, un peu répétitives. Ou même quand il fait des matchs tout pourris contre Dean Ambrose, quoi. Aujourd'hui, c'est dans ce Raw de cette semaine, c'est ce qui s'est passé. Au final, au début du show, il a fait un combat médiocre face à Ambrose. Et quand il revient à la fin, dans le segment de fin, et ben, il met le feu à la salle direct, quoi. Dans la seconde où il apparaît, il met le feu à la salle direct, quoi. Et toute la salle attendait pas forcément le fait qu'il mette un bourre-pif à Lesnar d'entrée. Mais c'était comme pour Becky. Tu sentais que toute la salle, elle tendait à ses lèvres, quoi, tu vois, il tenait les gens comme des marionnettes, quoi, voilà, quoi. Et non, Rollins, il est dans un momentum énorme, énorme.
Ouais, il y a des catcheurs qui mériteraient peut-être d'être dans des momentum et qui sont pas encore trop bien compris par la WWE, on en parle souvent. Là, tu le dis, à la fois pour Becky Lynch, à la fois pour Rollins, le mérite revient à tout le monde, mais ouais, ils ont compris qu'il fallait compter sur ces personnes-là. Rollins, ouais, je suis impressionné qu'il traverse effectivement. Il a traversé une feud contre Dean Ambrose qui était loin d'être terrible, mais tout lui glisse dessus. On a l'impression que voilà, tout le monde sait que c'est pas sa faute, en gros, que c'est la faute de Dean Ambrose peut-être. Il a eu des matchs contre, contre Baron Corbin aussi, qui n'était pas terrible, contre Bobby Lashley aussi, un petit peu de feud. Mais ça passe, et puis ça redevient toujours Seth freaking Rollins à la fin, donc. Écoute,
ouais, dans l'intervalle, il gère le titre intercontinental pendant plusieurs mois. Il est toujours dans la reformation du Shield, dans la séparation du Shield, dans le split avec Ambrose. Tu vois, dans l'émotion avec Reigns quand Reigns annonce sa retraite. Je veux dire, quand tu regardes bien Rollins, à Raw, moi, quand il dit Monday Night Rollins, moi, je dis que c'est pas usurpé, quoi. C'est pour moi Rollins, Raw, c'est son show là, et il en est l'un des patrons pour moi, tu vois quoi. C'est finalement presque une suite logique de le voir dans ce main event. C'est pour moi, il y a pas beaucoup à discuter. Qui on mettrait en main event à l'heure actuelle face.
Ah non, c'est une bonne question hein, que tu as. De toute façon, on sait bien que tous ces plans là actuellement, c'est quand même un peu entre guillemets du rafistolage, parce que sinon on aurait Roman Reigns très certainement champion et Lesnar serait plus là déjà depuis un petit moment. Donc il a fallu, je pense, une bonne réunion, même plusieurs, pour se dire quel est le futur top guy. Et moi, je suis comme toi, je pense que là le gars qu'ils choisissent pour WrestleMania, c'est celui qui va prendre le relais de Lesnar. Alors il y a Drew McIntyre aussi qui est très affûté, mais ils ont choisi de le faire plutôt le top heel pour commencer, donc difficile.
Puis là, et puis en plus là, pour moi il y a un truc de crédibilité aussi, c'est-à-dire que Rollins face à Lesnar là, c'est crédible.
Ouais.
Lesnar, il a déjà feudé avec lui pour le titre suprême déjà à l'époque. Mm-hmm. Je me rappelle d'un match d'un triple threat Cena Rollins Lesnar qui avait été un des matchs les plus phénoménaux de je sais plus en quelle année c'était, en 2016 2017 je sais plus
2016 et, je pense, mais on l'avait élu meilleur match de l'année, je crois. Ouais, okay,
on l'avait peut-être même élu même meilleur match de l'année, il me semble bien, ouais, ce match. Mm. et en fait Rollins, on sait que voilà, Rollins il peut aller dans le ring face à Brock Lesnar, tu vois. Rollins par exemple, il n'y aura pas le parallèle fait Yat. Ils vont trouver un autre angle, parce que David et Goliath, ça marchait bien pour Lesnar Baylor, mais par contre Rollins, c'est une autre affaire, quoi. Pour moi, il est crédible. Donc si tu veux, à WrestleMania, c'est ce que j'attends aussi, quoi. C'est que les main events, ils soient crédibles, quoi. Et voilà, pour moi, Rollins Lesnar, c'est une affiche totale crédible.
Eh ben écoute, on va voir ce que va donner maintenant cette feud qui est lancée. En tout cas, on va en terminer déjà là pour ce Monday Night Raw de post Royal Rumble qui était bien rempli. Bon, écoute, je crois que tu connais la règle hein, maintenant. Je te laisse faire le mot de la fin. Donc, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors, je vais commencer par ma note direct. Donc, je vais mettre un 3. Okay. 3 pour moi, c'est pas mal, parce que le show était pas des bons petits combats. Il n'y a pas eu des combats extraordinaires. Il y a qui laissera une trace, tu vois, comme je sais pas, un gauntlet match avec Seth Rollins déjà il y a l'année dernière par exemple. Mais voilà, on peut pas dire que voilà, il y a un match où tu te dis ah ouais, dans ce rôle il y avait un match, c'était la folie quoi. Mais tout était correct, tout se tenait bien et tout était plutôt bien raconté. Donc c'est pour ça que je mets un 3. Mon flop, alors j'ai hésité, j'y ai pensé avant que tu ne me joignes, et j'ai hésité longuement en fait avec mon flop, mais mon flop je vais le donner à Dean Ambrose, voilà, parce que Dean Ambrose pour l'ensemble de son œuvre sur cette semaine, quoi, sa catastrophique prestation au Rumble, sa pas très vraiment pas bonne prestation à Raw lundi, et son final face. Finalement j'avais envie de dire thank you Naya, c'était un peu bizarre quoi, voilà. Donc mon flop il est pour Dean Ambrose, et mon top c'est The Man, quoi. Voilà quoi, c'est le segment, mon top c'est un segment en fait, quoi. Voilà. C'est le segment Ronda Becky, quoi, voilà, avec tout ce qu'on a dit au préalable. Donc voilà, ça c'était un c'était un grand moment de ce Raw, quoi. Un grand moment, et vraiment les femmes. Depuis 3 ans, moi, je fais partie de ceux qui kiffent, quoi. Vraiment, le catch féminin, pour moi, ça a été une une transformation, une évolution, une révolution. Moi qui vis le catch depuis tant d'années, depuis des décennies maintenant, je peux dire. Si tu veux voir les filles où elles en sont aujourd'hui, quoi, et voir ce segment-là entre Ronda et Becky lundi soir, j'ai dit, bah là, voilà, les filles, là, vous m'avez convaincu, là, c'est du top niveau, quoi, c'est du top level. Voilà.
Et c'est beau ce que tu dis. Écoute, j'aimerais que tu réussisses à convaincre notre ami Giscal qui n'est pas aussi touché,
Oui,
malheureusement.
je sais, haters
Et non, moi, écoute, je te vole ton top aussi, hein. Moi, je suis je suis pas ni un anti Ronda Rousey ni un grand grand fan, mais je comprends ce qu'elle apporte, comme tu l'as dit, à l'aura mondiale de la WWE. Par contre, pour moi, Becky Lynch, là, elle a réussi en. Effectivement, elle n'est pas the man depuis longtemps, hein, ça fait même pas 6 mois, mais elle réussit une osmose avec le public, elle réussit des matchs de ouf. Pour moi, de mémoire, donc moi, je suis pas un fan d'aussi longue date que toi, ça fait 10 ans là maintenant que je suis du catch. Moi, je vois que la période CM Punk et la période Daniel Bryan, là, voilà, ces périodes, ces mecs qui arrivent à. C'est au-delà d'être le main eventer du moment, c'est un truc qui fera date. Et Becky explose, quoi. Enfin, je veux dire, Becky et là, c'est la meilleure des. On a envie de dire pour le moment, c'est Charlotte a beau avoir déjà 7 ou 8 titres, c'est Becky qui écrit les moments les plus légendaires du catch
Ouais,
féminin. Enfin.
clairement, clairement. À l'heure actuelle, la béquille, c'est la absolue de la WWE chez les femmes.
Ouais, donc
Et Charlotte elle-même le sait, je pense, hein, tu vois.
oui, elle a le mérite, je pense, d'en être consciente. Du coup, bah ouais, moi je sais pas, j'ai pas encore pris des places pour des prochains shows, mais moi j'ai envie de voir Becky Lynch en live, quoi, maintenant.
Ah putain, ouais, moi non plus, je l'ai jamais vu non plus.
Becky, quoi.
Les trois, ouais, les trois derniers, j'ai fait les trois.
Ouais.
Elle n'était pas là à chaque fois, donc.
Non, ouais, moi je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu. J'aurais vu Paige, j'aurais pu dire que j'ai vu Paige et
J'ai vu
AJ
Page
Lee, mais.
aussi.
Ouais.
Bah, j'ai vu Page avec toi
Et
d'ailleurs.
oui, c'est vrai, ouais, on
Eh
était
ouais, eh ouais.
sacré
Elle
manque
était
là.
en tag team. Un
Ouais,
match en tag team.
exactement.
Avec Edge Lee, je crois. Contre les
Et oui,
sœurs Bella. Contre les Bella.
ça devait être ça.
Ouais.
Et du coup, bon, ben moi, mon flop, du coup, je vais le donner à la décision de faire un heel turn à Elias. Alors, la seule chose que je vois, parce que je comprends vraiment pas, est-ce qu'on a des Est-ce qu'on a des mecs qui vont revenir? Parce que là, ça fait quand même un mec qui était vraiment un gros segment face sur la carte, hein, Elias. Pourquoi ce heel turn? Alors, est-ce qu'on va pas avoir quelqu'un du genre Kevin Owens ou Sami Zayn qui reviendrait en face pour prendre la place? Enfin, là, j'ai l'impression qu'il y a un gros trou. Et si on regarde ce Monday Nitro, bah, les heels ont quand même beaucoup le dessus, hein, donc, il y a Bobby Lashley qui tabasse Baylor. Il y a Baron Corbin et Drew McIntyre, il y a Elias qui tabasse des vieux, il y a Lesnar, bon, les
Ah, t'as
faces.
pas tort, c'est vrai que c'était un show où les heels avaient la part. L'histoire, en fait, à part les deux segments énormes des Becky, en fait, c'est vrai que c'est les heels qui ont dominé le show, quoi. Parce que, en plus, je crois qu'on en a dit un mot, mais Alexa Bliss, oui, on en a parlé d'Alexa Bliss. Mais c'est vrai qu'Alexa Bliss, c'est un peu pareil, face à Nia Jax et Tamina, elle était un peu en situation de face, quoi.
Ouais, clairement.
Donc c'était ouais du coup t'as raison j'avais pas analysé ça sur le coup en regardant la carte mais c'est vrai que les heels ont été les patrons de rôle lundi soir quoi
Sauf un, celui que t'as mis en top, en flop, hein,
ouais
t'es nombreuses.
ouais 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 ouais, ouais voilà
Mais c'est vrai.
il fallait une exception.
C'est ça. Et du coup, bah écoute, niveau notes, je vais mettre 3 aussi, parce que j'ai effectivement. J'avais. Pas mal d'attentes puisque les derniers Raw post-Rumble, là je me souviens, il y avait eu des des grosses révélations, il y avait eu des retours du genre Samoa Joe, tout ça. Moi je m'attendais limite à voir, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, Kevin Owens, ou au moins EC3 qui commence, ou un truc comme ça. Et donc, bon, ça avance doucement, mais disons que pour les grosses intrigues, quoi, les deux ceintures principales, là, les filles et les mecs, on a notre main event de WrestleMania, et c'était quand même du lourd. C'était du lourd.
Yes.
C'était très bien. Bah écoute, merci, hein, Chris, d'avoir participé à
C'est
cette
moi.
analyse. Petit instant promo, ça y est, je commence enfin à savoir faire tout ça. Vous pouvez nous joindre, nous écouter comme d'habitude sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce Raw post-Rumble, à mettre un coup des likes, un coup des étoiles, un coup des pouces, un coup des cœurs, je ne sais pas trop ce qu'on peut mettre. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, on s'appelle Catch-up CDC, et puis surtout, ben, continuez de nous écouter, hein, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir en ligne. Suivez les autres analyses, on a deux analyses, deux vidéos spéciales sur le Royal Rumble, puisqu'on a notre ami Hank qui a fait une sorte d'exercice de style, et puis, SmackDown continuera par la suite, et nous serons là encore toutes les prochaines semaines. Donc, et ben, voilà, là-dessus, on va en finir. Alors, un dernier mot, Crix, pour nos auditeurs.
Bien content d'avoir fait ça avec toi, pour la première avec toi. C'était cool. Voilà, et puis bah, je vous dis à bientôt, quoi, à tout le monde. Quoi. Salut le peuple de catch-up.
Voilà. Allez, bonne semaine à tous, pleine de catch. Ciao.